France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors il y a 30 ans, disparaissait Pierre Desproges, génie du rire, mais surtout comique, permettant aux médias de ressortir chaque année cette même question. Mais au fait, peut-on vraiment rire de tout? Alors souvent, vous savez, ce sont les mêmes personnes qui se régalent ensuite d'un buzz parce qu'un humoriste est emparé d'un terme polémique. Alors peut-on rire de tout? Oui. Et surtout en se moquant en premier de ceux qui posent cette question. Et ils s'informent de tout. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Éric Métou, bonsoir, de L'Express. La communicante Aurélie Motarivet, bonsoir. Christophe Gascard, bonsoir, de France Télévisions. Et Christophe Kirel, bonsoir. Ex-chef cabinet de François Hollande. Et ce soir, nous parlerons de Laurent Wauquiez, offensive sur l'immigration, SNCF, fin de grève. Ouh, ce n'est que le début. Notre-Dame de Landes, Hulot, eh bien, en première ligne. Mais juste avant, pour commencer, nous recevons Marianne Meunier. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes journaliste à La Croix. Mmh. Et avec vous, nous allons parler de ce qui se passe aussi en Syrie, mais d'une manière, vous allez le voir, assez étonnante, puisqu'en Syrie, en ce moment, une équipe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques est entrée à Douma hier, 10 jours après l'attaque présumée au gaz toxique. D'autres continuent le combat autrement. Et dans La Croix, vous avez publié aujourd'hui une enquête, on va dire vraiment passionnante, sur ces enquêteurs donc qui réunissent des preuves d'exactions perpétrées par le régime de Damas. Alors juste au départ, Marianne Meunier, qui sont ceux qui portent plainte justement contre le régime de Damas?
Ce sont des victimes ou des proches de victimes du régime de Damas qui, faute de pouvoir se tourner vers la Cour pénale internationale puisqu'elle est bloquée par le veto russe pour pouvoir se saisir du cas syrien, faute de pouvoir se tourner vers la CPI, se sont tournés vers les justices européennes puisque ce sont des réfugiés en Europe.
Alors juste pour préciser, ils peuvent porter plainte?
Oui, en fait, les justices en Europe ont une singularité qui s'appelle la compétence universelle, qui est déclinée à des degrés divers dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, dont la France, dont l'Espagne. Et c'est en vertu de cette compétence universelle qui permet de poursuivre des criminels, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit aussi la nationalité des plaignants.
Alors c'est des témoignages, bon, bien sûr, effroyables, notamment sortis d'une prison à 30 km de Damas. Pourquoi ces gens, quand vous les avez rencontrés, pourquoi ils ont choisi la voie de la justice, finalement, assez classique, on va dire?
Parce que je pense que, à leurs yeux, d'après ce que nous avons pu recueillir avec ma consœur Marie Bouetton, ouais, puisque nous sommes deux à avoir réalisé cette enquête, c'est important de le dire, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'en fait, c'est une sorte de nécessité pour ces plaignants, puisque ils peuvent pas continuer à vivre autrement, en fait. Et aussi, c'est par solidarité pour ceux qui sont encore en Syrie. Comme nous le dit une magistrate dans notre enquête, la torture se poursuit encore en Syrie aujourd'hui. Ils n'espèrent pas de réparation sonnante et trébuchante, bien évidemment. Ils savent bien que leurs proches ne reviendront pas. Mais c'est une sorte de devoir moral au nom d'une certaine unité de l'humanité.
Alors, Marie Meunier, on voit aussi dans cette enquête qui est assez longue, vous évoquez aussi le cas, par exemple, de sociétés privées, comme la Commission internationale pour la justice et la responsabilité. Ils sont canadiens, je crois.
Oui, c'est
lui
ça.
Lui est canadien, celui qui a créé ça. Oui. Et eux, alors, par contre, ils vont sur place, en Syrie, au péril de leur vie, pour aller chercher ces preuves contre le régime de Damas.
Plus exactement, donc ce Canadien Bill Willey, qui était un ancien enquêteur du tribunal pour l'ex-Yougoslavie notamment, a recruté des Syriens qui, sur place en Syrie, vont chercher des preuves et les exfiltrent. Régulièrement, ils sont en communication pour savoir par quelle frontière la plus sûre exfiltrer ces preuves. Ils vont ça vraiment au péril de leur vie. Si déjà, cette commission a déjà perdu deux hommes depuis sa fondation dans des bombardements. Et effectivement, ils exfiltrent des preuves qui sont consignées en Europe dans des archives avec des cotes très précises. Et il y a même des relevés de température dans la pièce où sont consignées ces preuves. Puisque l'idée,
sous vidéosurveillance également, voilà, vous l'expliquez. Voilà, parce qu'en effet, ces preuves sont quelque chose de très concrète. Et c'est une guerre d'ailleurs qui est finalement où il y a beaucoup de renseignements. Je suis beaucoup de papiers.
Oui, alors selon plusieurs magistrats, plusieurs observateurs bien avertis que nous avons rencontrés, la guerre en Syrie, c'est la guerre qui est la plus documentée qui soit. Ça tient beaucoup aux réseaux sociaux. Ça tient aussi à la bureaucratie du régime qui, malgré lui, en quelque sorte, a documenté ses propres crimes. Et ça tient aussi à l'expertise de la société civile syrienne qui, en l'absence d'une instance internationale s'étant saisie de la situation en Syrie, s'est formée elle-même pour relever elle-même des preuves.
Juste une chose, Éric Métou, est-ce que ça vous étonne comme ça que ces personnes aient le courage de poursuivre en justice, finalement, de mener une action en justice contre leurs tortionnaires?
Oui, enfin, c'est très courageux, c'est surtout très important. On ne le dira jamais assez, il y a 400 000 personnes qui sont mortes, et qui sont mortes pas sous les bombes de Daesh, aussi épouvantables soient Daesh, elles sont mortes sous les bombes des avions de Bachar el-Assad. Et ce que vous disiez sur la documentation, c'est fondamental. Enfin, je ne veux pas faire du point Godwin, vous parliez du régime de Bachar, les nazis. Toute la documentation qu'on a eue sur les camps de la mort, c'est aussi venu parce que c'était une administration extrêmement bien rodée. Mmh. Et là, on a un peu le cas. Et après, c'est très très important que un jour ça va sortir. Mmh. Un jour, on va juger ces gens, même quand ils seront morts. C'est important pour la mémoire de ceux qui sont morts. C'est fondamental. Et effectivement, par ailleurs, c'est extrêmement courageux.
Marie Meunier, est-ce que vous savez ce que pensent ces personnes finalement aujourd'hui des frappes opérées par les Américains, les Français et les Britanniques? Est-ce qu'ils encouragent cette démarche où ils se disent, est-ce que ça sert à quelque chose?
Alors, nous les avons rencontrés avant les frappes, donc je peux difficilement répondre à leur place.
Est-ce qu'ils attendent ça? Est-ce qu'ils attendent, à votre avis, quand vous les rencontrez, et eux, ils sont pour la justice, et ils se disent, est-ce qu'on a à agir?
J'imagine qu'ils trouvent que c'est bien peu et que ce qu'on appelle la communauté internationale, et notamment l'Occident, a quand même... était assez passif devant la situation syrienne. Les États-Unis, qui s'étaient engagés avec la France en 2013 à intervenir après le franchissement d'une fameuse ligne rouge lorsque des armes chimiques ont été employées à la Ghouta, les États-Unis ne sont pas intervenus. Donc ils sont assez déçus, à part pour la justice.
Pour la justice. En tout cas, c'est une enquête à retrouver. La Croix. Donc si on n'a pas eu l'occasion de l'acheter aujourd'hui, La Croix, Marine Meunier, on peut le retrouver, cette enquête, sur le site internet?
On peut tout à fait le retrouver sur le site internet.
D'accord. Donc je vous encourage véritablement à lire, en tout cas, cette enquête passionnante. Merci beaucoup, Marianne Meunier, et donc votre collègue journaliste avec qui vous l'avez écrit.
Marie Bouetton, qui s'occupe de la justice.
Ouais. Voilà, à La Croix. Donc voilà, en tout cas, une enquête assez incroyable à lire sur le site de lacroix.fr. Merci beaucoup d'être passé ce soir aux Informés de France Info.
Lacroix.com.
Ah oui, pardon, c'est vrai que vous êtes international. Voilà, c'est pour ça qu'il faut dire, bien sûr. Merci beaucoup. Allez, l'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
La SNCF arrêtera d'embaucher au statut de cheminot au 1er janvier 2020. Pour la ministre des Transports, cette date est postérieure à la négociation de la convention collective. Sur France Info, Philippe Martinez de la CGT dénonce un marché de dupes, une nouvelle tromperie du gouvernement. La grève se poursuit demain à la SNCF dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Ne ratons pas la dernière étape, ne confondons pas écologie et anarchie. Déclaration de Nicolas Hulot ce soir depuis Nantes. Le ministre de la Transition écologique a reçu les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Pour lui, l'État a donné, il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance dans l'autre sens. Avant cela, les occupants de la ZAD et opposants ont regretté que les lignes n'aient pas bougé. La suite des révélations du projet Daphné, 18 médias internationaux dont la cellule d'investigation de France Info pour poursuivre les enquêtes de la journaliste maltaise Daphné Caruana Galizia, assassinée il y a maintenant 6 mois. Nous vous expliquons ce soir comment le laxisme des autorités de Malte a permis à des familles liées à la dictature d'Azerbaïdjan de mettre la main sur 3 sociétés françaises. Et puis qui, du PSG ou de Caen, va affronter les Herbiers en finale de la Coupe de France de football? La réponse ce soir à partir de 21h05 depuis le stade Malherbe après ce second match de demi-finale.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Et j'entends siffler le train. C'est le petit train qui va dans la campagne. Voilà, tous ensemble, dansons la locomotion. Quand il y a une grève à Radio France, il y a une playlist de grève. Alors, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas une playlist quand il y a une grève à la SNCF également, hein. 4e session, donc, de grève un peu moins suivie puisque 19,8% des salariés de la société ferroviaire ont débrayé aujourd'hui. 14 points de moins que lors de la première journée il y a 2 semaines. Un chiffre qui n'empêche pas les syndicats d'être toujours très mobilisés. Surtout qu'aujourd'hui, le gouvernement a annoncé la fin du statut des cheminots pour les nouveaux embauchés au 1er janvier 2020 et les organisations syndicales n'auraient pas été prévenues. C'est bêta. De l'autre côté, ce sont désormais des associations d'usagers qui souhaitent en découdre avec la SNCF. Une trentaine d'entre elles demandent le remboursement intégral des abonnements qu'elles ont souscrits. Une tension palpable qui s'est invitée à la visite présidentielle dans les Vosges ce matin, où Emmanuel Macron a été pris à partie par quelques cheminots. On écoute l'échange.
Moi, je crois au chemin de fer. Je fais ça parce que je veux un chemin de fer fort.
Mais moi aussi.
Donc, je veux vous le dire. Donc, je le fais avec sincérité. On peut avoir des désaccords. Prenez votre part de cette convention de l'entreprise qui va se développer. Mais vous pouvez râler, etc. Mais ne bloquez pas tout le pays. Et il ne faut pas être insultant, c'est tout.
Voilà, il ne faut pas être insultant. Il m'est arrivé, est-ce que c'était le mot à choisir? Il ne faut pas être insultant à l'égard des grévistes.
Je crois qu'il faut surtout remettre en perspective en fait, la séquence exceptionnelle dans laquelle est Emmanuel Macron aujourd'hui, qui est une séquence en fait, de mise à l'épreuve de son autorité. On parlait de la Syrie à l'instant.
Ouais.
C'est le cas sur la scène internationale. C'est le cas sur la scène européenne. On l'a vu hier à Strasbourg, puisqu'il lance les consultations citoyennes. Donc, il y a un vrai sujet de refondation. Et c'est le cas, effectivement, en France avec l'ensemble des réformes. Et au fond, on voit bien que cette séquence, en termes de communication, le sert, puisqu'il est obligé de passer de Jupiter, d'une certaine manière, aux 12 travaux d'Hercule. Et donc, d'incarner la fonction présidentielle de façon très forte et de montrer une très forte détermination, une très forte autorité et pugnacité. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu dimanche soir sur BFM.
Voilà, il répète souvent, moi je vais au contact. Christophe Pierrel, hier, l'Assemblée nationale a adopté à une forte majorité la première partie du projet de loi. Est-ce qu'une mobilisation, ça peut faire changer et revenir, surtout sur un projet de loi? On a toujours le CPE en tête, hein.
Bah, ça a déjà été le cas.
Oui.
C'est pas non plus nouveau dans l'histoire qu'on puisse revenir sur une loi ou revenir même déjà sur une loi votée. Le CPE en est le cas. J'ai l'impression que Macron va essayer de tenir jusqu'au bout, envers et contre tout, en se disant que le mouvement va s'essouffler et que du coup, derrière, il va pouvoir montrer qu'il a été très fort. Parce que la séquence de communication dont on vient de parler, elle s'impose pas à lui. En fait, il l'a créée. Tout ce qu'il met en place là, que ce soit sur la SNCF, sur Notre-Dame-des-Landes, et même à l'international, au niveau européen, etc., c'est lui qui se crée sa séquence de rapport de force pour montrer les muscles, c'est sa stratégie, c'est depuis le début en fait, de son mandat ce qu'il souhaite faire pour montrer aux Français qu'il tient bon. Bien évidemment, derrière, on ne parle plus de la philosophie des lois, on ne parle plus justement du problème de la SNCF, on ne parle plus du service public ferroviaire, on ne parle plus des 9000 km de voies secondaires qui risquent de disparaître. En fait, toute la question fondamentale et des réformes, on évite de l'aborder, donc c'est sa stratégie, c'est bien dommage parce que du coup on ne parle plus du fond.
Ouais.
Et que c'est quand même moi ce qui m'intéresserait, c'est qu'on discute philosophie de la SNCF, service public, l'avenir, comment justement dans le système concurrentiel dans lequel on est, on sera demain, on va pouvoir faire survivre un service public pour les territoires ruraux notamment.
Mais je suis désolé, ce qu'Emmanuel Macron disait là, c'est moi je suis pour le service public, je vais faire justement, je fais cette réforme pour le service public.
Sauf qu'il n'y a aucune garantie et que quand on commence à regarder la philosophie dans le fond, que Bercy a mis tout son poids pour faire disparaître ces 9000 km de lignes dont je parle et qui sont dans les territoires ruraux majoritairement et qu'on veut transférer aux régions notamment, on sait bien que les régions n'ont pas les reins assez solides pour les supporter, ça veut dire à terme disparition. Donc tout ça est et ce n'est qu'une phase. Et on nous masque un petit peu la suite et ça permet de masquer en faisant les gros bras comme ça de communicants.
Une chose, Christophe Guescard aussi, c'est il y a un nombre de grévistes en baisse, mais on sent quand même des syndicats très mobilisés toujours parce que eux, ce qu'ils disent, c'est de toute façon tout est déjà écrit. Comme on l'entend souvent ça, hein. On l'entend depuis finalement la réforme du Code du travail, tout serait déjà écrit, donc pourquoi négocier ?
Quatrième session effectivement pour eux. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de temps ils vont pouvoir durer ce mouvement. Et on sent, ils sont de plus en plus mobilisés. La vraie difficulté, je pense, pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a été élu pour faire ses réformes. S'il lâche sur ce terrain-là, il est mort. Donc en fait, il a pas vraiment le choix. Les syndicats, de leur côté, ils vont jouer leur batou, ils vont essayer. Ce qui va pouvoir, à mon avis, à mon sens, tout changer, c'est la mobilisation à la fois, effectivement, de la SNCF. Les conducteurs sont très mobilisés.
Ouais.
Mais ce qui a vraiment changé, c'est finalement les usagers. À un moment, une grève, elle est portée. Le gouvernement est obligé de céder si, effectivement, la rue les soutient. Toute la question aujourd'hui, et j'ai pas forcément la réponse,
mais
j'ai pas le sentiment que cette grève est massivement soutenue par les Français. Surtout qu'il y a plusieurs terrains un peu partout et que c'est assez compliqué.
Elle est pas massivement rejetée non plus parce que pour être souvent dans les transports en commun, les gens leur râlent assez peu, se sont adaptés. Enfin, moi, je suis assez surpris d'ailleurs de la façon dont les usagers du train se sont totalement adaptés à la situation. Il y a assez peu de colère
même
dans le RER.
Et en même temps, ils n'ont pas vraiment le choix.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, usager aujourd'hui, on lui dit qu'il y a une grève perlée deux jours et ça va durer pendant 36 jours, il s'adapte.
Je pense qu'il y a une forme de compréhension quand même du mouvement.
Alors,
il y a aussi ça derrière.
Éric Métou. Vous pensez qu'il y a une forme, justement, de compréhension du mouvement où aujourd'hui, on le voit dans les sondages,
qu'il est fort, en fait, Macron. C'est-à-dire, il y a trois terrains où on a l'impression qu'il est faible aujourd'hui, ou en tout cas, que la situation est tendue. C'est Notre-Dame-des-Landes, les facs et la SNCF.
Ouais.
Mais c'est les trois situations qu'il contrôle le mieux. Ce qui se passe Il y a quelques affrontements, mais c'est sous contrôle à Notre-Dame-des-Landes. Les facs, il y en a 12 qui sont en grève, il y a 4000 ou 10000 étudiants. Enfin, la majorité d'entre eux s'en foutent, grosso modo. La SNCF, c'est en train de s'essouffler. Après, ça peut rebondir. Mais en tout cas, c'est aussi sous contrôle. Et les endroits où il est faible, c'est pas là. Les endroits où il est faible par rapport à l'opinion publique, c'est la CSG. Les mesures fiscales. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les sondages, par exemple, que ce que les Français lui reprochent, c'est pas d'être droit dans ses bottes sur la SNCF, les facs ou Notre-Dame-des-Landes, c'est d'avoir pris des mesures, c'est d'avoir supprimé l'ISF et d'avoir imposé la CSG aux retraités. Ouais. Et là-dessus, et on l'a vu même, y compris dans les débats, c'est là qu'il y a des points de faiblesse. Et c'est là quand il est attaqué, il est moins bon. Mais par contre, sur la SNCF, sur Notre-Dame-des-Landes et sur les facs, il dit, moi j'ai dit que j'allais prendre des mesures, je les prends, je suis dans une barre, c'est peut-être une posture, mais en tout cas, il la tient bien, et la situation, elle est sous contrôle.
Pourtant, il a dit merci quand même aux retraités, avec Jean-Pierre Pernod.
Ça n'a pas été ce qu'il a fait de mieux la semaine dernière.
Il y a une très grande cohérence, effectivement, dans la méthode de communication, puisqu'il est toujours dans la même posture, au fond. Au plan international et national, en fait, il a la même posture, c'est je fais ce que j'ai dit, je dis ce que j'ai fait, j'assume, y compris avec Poutine. Et voilà, la CGT, c'est exactement la même méthode.
Il y a des premiers sondages qui sont tombés ce soir sur les prestations télévisuelles du président de la République, et on ne voit que ça ne bouge pas d'un iota, c'est-à-dire que ça n'a rien fait. C'est-à-dire que les gens qui avaient confiance en Emmanuel Macron continuent à le soutenir, les autres disent il est peut-être droit dans ses bottes, mais on ne lui fait pas confiance. On voit bien quand même que, en ce moment, ça bouge pas plus que ça. Et pourtant, on en a mangé la semaine dernière du Emmanuel Macron.
Oui, mais je pense que l'effet que ça a eu en termes de communication, c'est comme vous le disiez très bien, ça a écrasé d'une certaine manière les sujets. Et la semaine dernière, on a parlé que de la stratégie de communication d'Emmanuel Macron des sujets de fond, d'une certaine manière. Ensuite, il a dilué les prises de parole des uns et des autres et des opposants avec le rythme de réforme. Finalement, ça n'imprime pas, on n'arrive pas à suivre. Et donc, en termes de communication pour les opposants, c'est très compliqué d'avoir une forme de coalition.
Il a une politique du coup de poing. C'est-à-dire qu'en fait, il met des coups de poing un peu partout. À la fin, tu sais plus où t'as mal.
C'est une politique de bulldozer.
Du coup, c'est sur un ring. En fait, imagine, tu joues la stratégie de l'épuisement effectivement de ton adversaire. Il en met tellement partout qu'on a oublié qu'à un moment il a augmenté la CSG. On a oublié qu'il a dit qu'il peut-être on aura un deuxième jour de solidarité, ce qui est complètement antinomique avec l'idée qu'il a remercié les retraités pour leur contribution. Mais en même temps, c'était pour les jeunes. Et puis maintenant, il va prendre à ceux qui travaillent pour redonner aux personnes âgées. Et il m'expliquer les flux là dans cette histoire. Mais enfin, tout ça est incohérent. La politique qu'il mène est incohérente. Mais comme il en met partout, du coup, à la fin, on ne sait plus où on habite. Et c'est une stratégie totalement de communication. Mais enfin, dans le fond, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Et notre pays, dans sa philosophie, est en train de changer. Je ne suis pas en adéquation avec ce qu'il propose. Et on n'a même pas le temps d'en parler.
Alors, on va continuer à parler des mobilisations. Dans un instant, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Les étudiants de l'Université Saint-Charles de Marseille votent à leur tour le blocage, mesure valable à partir de demain pour une durée illimitée contre la réforme de l'université. À Paris, la protestation s'étend aujourd'hui à Sciences Po. À Montpellier, la justice somme les occupants de quitter les locaux de la fac Paul Valéry sans délai. C'est un témoignage France Info. Philippe Cobert déclare tombé des nues. Le comédien de 67 ans est soupçonné de viol. C'est tellement énorme, dit-il, que j'ai pensé que c'était une arnaque. La plainte a été déposée par une femme avec qui il a entretenu une relation. Une enquête est désormais ouverte par le parquet de Paris. À Marseille, un adolescent se rend à la police après le meurtre d'un jeune. Le suspect de 15 ans s'est présenté spontanément. La victime a été tuée le 7 avril à coups de couteau dans les quartiers nord de la cité phocéenne. Le suspect n'est pas connu de la justice. Après l'accident d'avion sur le vol New York-Dallas, le bureau enquête accident envoie deux experts depuis Paris. Ils devront expliquer comment un moteur de cet appareil a pu exploser dans les airs. Un des passagers est mort. Plusieurs personnes ont été blessées. Et puis Richard Gasquet, le seul Français qualifié à Monte-Carlo aujourd'hui dans le tournoi 1000. Le tennisman a battu l'Argentin Schwartzmann en 2-7. Exit en revanche Gilles Simon qui n'a pas résisté à Karen Khachanov.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors demain, il fera encore plus beau, encore plus chaud. Bref, une belle journée merguez et surtout à slogan. À l'appel des syndicats solidaires et CGT, les salariés de la SNCF, d'Air France, des étudiants, des fonctionnaires, du personnel des EHPAD et autres, si vous êtes en colère, défileront un peu partout en France afin de tenter de créer un front unique contre les différentes mesures du gouvernement. Et pour l'instant, il n'y a pas de front unique syndical puisque la CGT ira seule avec Solidaires. C'est pas grave, on se retrouvera plus tard, Philippe Martinez.
trouve dommage, mais nous ne désespérons pas qu'au niveau interprofessionnel, confédéral, eh bien, il n'y ait pas des signes forts de l'ensemble des confédérations pour dire...
Qui vous reproche régulièrement de faire cavalier seul.
Qui, pour dire, oui, nous sommes en soutien de tous ceux qui manifestent, qui protestent ensemble dans les entreprises.
Et vous reproche d'avancer seul, de mettre en avant la CGT seule.
J'ai pas l'impression que la CGT soit seule à la SNCF, à Air France et dans la fonction publique. Vous aviez d'ailleurs noté que pour la prochaine journée d'action, toutes les organisations syndicales appellent à protester.
Voilà, Philippe Martinez au micro de Jean-Lémarie sur France Info. La prochaine journée de mobilisation dont il parlait, c'est le 22 mai, une journée de mobilisation dans la fonction publique. Christophe Gascard, cette journée de demain, alors on a appris aussi pour les franciliens que la RATP pourrait y participer. On sent quand même qu'on maintient toujours le fer au chaud. Hein.
Bah, la grande chance d'Emmanuel Macron, c'est effectivement qu'il n'y a pas d'unité syndicale. Demain, et s'il a dit merci aux retraités, il pourrait dire merci aux syndicats aujourd'hui. Parce que c'est pour lui... je pense que dans sa logique, il se dit qu'à un moment, le mouvement, il va s'essouffler. Il a tout intérêt, de toute façon, à avoir cette logique-là, si on se met à sa place. Et de se dire que, sachant qu'ils ouvrent des feux, des contre-feux, à la fois sur... Les revendications, aujourd'hui, de la SNCF sont pas du tout les mêmes que celles d'Air France. On est sur des salaires. Ce n'est pas la même chose que pour les lycéens. Là, les lycéens, on en parlera tout à l'heure, mais c'est complètement autre chose. Donc, j'ai l'impression qu'il voit qu'il y a des feux, il y a des contre-feux, et que finalement, il utilise tous ces contre-feux en se disant qu'à un moment, ça va s'essouffler.
Le mot d'ordre, Éric Métou, demain, c'est coagulons les luttes tous ensemble. Oui. C'est ce que souhaite la CGT aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui. La CFDT est faux, eux n'y croient pas. Voilà, ils disent qu'on ne fait jamais avancer les droits des salariés avec ça.
Sur des revendications tellement différentes. Entre Air France, c'est une augmentation de salaire, c'est une lutte assez classique, et surtout si. Air France. Oui. La SNCF, c'est un vrai problème d'identité. Là, il y a un bras de fer, c'est l'identité des cheminots. Dans les facs, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ils font grève. C'est un autre sujet.
Alors après, il y a les EHPAD,
il y a toute la fonction publique. Là, il peut y avoir éventuellement une convergence de lutte, mais même dans les EHPAD, les conditions de travail des cheminots sont pas dramatiques. C'est absolument pas comparable avec celles des personnels soignants dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Donc c'est compliqué derrière de faire une convergence de lutte. Et on voit bien. Et encore une fois, moi, je pense que la situation chez Macron, elle est tout à fait sous contrôle et qu'il est très content aujourd'hui, très satisfait qu'elle soit sous contrôle. On est mais à des années-lumière des manifestations de 95 contre le CPE. Ça n'a rien à voir.
Alors,
pour l'instant,
Christophe Pierre, on voit quand même aussi un gouvernement qui essaye justement de diviser ce syndicat parce que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, par exemple, a envoyé une petite lettre à la CFDT, à la SNCF pour dire « Vous avez vu ? On a pris vos recommandations dans la loi, ça tombe bien. »
Le gouvernement n'a pas besoin de désunir le Front syndical, il est désuni. C'est-à-dire que, et ça remonte... En vérité, à la loi El Khomri. La loi El Khomri a déstabilisé complètement, autant que d'ailleurs le gouvernement précédent a déstabilisé toute la gauche dans son ensemble sur l'échiquier politique. Le Front syndical, il est totalement désuni à cause de la loi El Khomri. C'est-à-dire que le procès d'avance fait à la CFDT, c'est d'être de toute manière du côté du gouvernement à la fin, et donc on lui fait pas confiance, et donc on n'est pas dans le Front uni. La CGT est soupçonnée de connivence avec les uns et les autres, et avec ça, vous rajoutez un peu de mélenchonisme et un peu de... Et tout ça, ça peut pas prendre. Et ce qui est marrant, c'est qu'on soit obligé, nous, de discuter de la convergence des luttes, etc., alors que à l'époque, notamment, on parlait du CPE tout à l'heure, les manifestations, les machins, les grèves et tout se sont coagulées les unes avec les autres, sans qu'on ait besoin de dire à un moment et d'exprimer sur un plateau télé que tout ça devait converger. En fait, ça se fait naturellement. Il n'y a rien qui se fait naturellement parce que tout est éclaté, explosé. La vie politique et la vie syndicale est explosée. Et c'est ça, à mon avis, le vrai enjeu pour les salariés et les syndicats, c'est de reconstituer ce front.
Une chose aurait dû m'arriver. Sur les partis politiques, la CGT refuse d'avoir des politiques dans son cortège. Est-ce que c'est là aussi où il n'y a pas un souci, qu'il n'y a pas de débouché aujourd'hui politique? Véritablement,
je crois qu'en fait, Emmanuel Macron, d'une certaine manière, a rebattu toutes les cartes dans l'échiquier, y compris politique, évidemment. Et au fond, il est toujours dans l'autorité de la méthode. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il impose l'autorité par le pragmatisme, le bon sens. Comme vous le disiez, il impose le tempo, d'une part, donc ce qui donne un peu le tournis par moment. Et il impose aussi le bon sens et le pragmatisme. Et comme il a fixé le cadre...
Le bon sens, pas pour tout le monde.
Non, il explique que tout ça est de bon sens puisque la méthode est juste, d'une certaine manière.
D'accord.
Et donc, on est dans cette logique permanente, en fait, du discours de la méthode, d'une certaine manière.
Et surtout, il a été élu pour faire ses réformes. La difficulté d'Emmanuel Macron, c'est qu'il sait qu'il a un socle qui va de la gauche... à la fois celle qui avait soutenu François Hollande, ou en tout cas une partie qui s'est émise avec Emmanuel Macron, une partie de la droite qui finalement au deuxième tour avait voté Fillon, a finalement voté pour Emmanuel Macron. Ces Français-là souhaitent les réformes. Donc ils l'ont amené au pouvoir à un moment quoi qu'on en dise, c'est la majorité. Et si Emmanuel Macron ne fait pas aujourd'hui ces réformes-là, il sait qu'il n'arrivera pas à les faire plus tard.
Très rapidement, Aurélie Mottarelli, très
rapidement. Non, mais en fait, il fait un nouveau pari politique, c'est le nouveau contrat politique. En fait, c'est celui dans lequel il sera jugé sur les actes, au fond.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, la logique. Et sa logique aussi, c'est de dire la réforme, au fond, est inéluctable. C'est la réforme tranquille, mais inéluctable. Donc, on y va. C'est une forme, au fond, d'autorité empathique.
Allez, dans un instant, on va parler de Notre-Dame-des-Landes, des étudiants, mais également des contre-propositions de Laurent Wauquiez concernant la loi Asile et Immigration. Et oui, tout un programme à venir dans les informés de France Info dans quelques minutes.
C'est souvent quand nous sommes persuadés de connaître quelque chose que nous passons à côté. Gamme Audi A3, vous pensiez la connaître, venez la découvrir. Audi A3 Sportback, Audi A3 Berline, Audi A3 Cabriolet et Audi S3. Découvrez la gamme Audi A3 comme vous ne l'avez jamais vue. À partir de 299€ par mois sans apport, avec entretien et extension de garantie offert.
Offre en location longue durée sur 36 mois et 45 000 km pour une Audi A3 Sportback. Réservée aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur Audi.fr.
AXA.
Allô ? Oui, je suis votre porte-monnaie.
Pardon ?
Je vais être cash. Je me sens vidé en ce moment, mais j'aimerais vous parler d'une offre juteuse qui devrait faire nos affaires.
Dans la vie, un porte-monnaie a rarement de bonnes nouvelles à annoncer. Mais pendant les additions gagnantes d'AXA, si vous souscrivez un contrat auto et un contrat habitation, AXA vous rembourse 6 mois d'assurance habitation.
Je suis plein de ressources.
Offre valable du 8 janvier au 31 août 2018. Conditions en agence ou sur axa.fr/addition-gagnante. AXA.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récolté à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Du très beau temps demain, du soleil dans un ciel bleu, à peine quelques nuages pour décorer. On en aura l'après-midi sur le relief du sud avec peut-être une petite ondée. Le risque d'avalanche sera encore fort sur les Alpes, sur les Pyrénées aussi. Quelques nuages bas s'inviteront sur le nord de la Bretagne. Un petit mot du vent, moins marqué. Le vent d'autan soufflera jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Côté thermomètre, petite hausse le matin, 7 degrés à Nancy, 11 à Lille, 13 à Paris, La Rochelle, Nîmes, 15 degrés au Havre et à Nice, 18 à Biarritz. L'après-midi, ce sera encore estival avec 20 à 25 degrés près de la Manche, pareil près de la Méditerranée. Ailleurs, on aura souvent 25 à 28 degrés. 28 degrés pour Paris, Lyon ou Cognac, par exemple.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335€ en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin arrivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Ils sont en Syrie depuis le week-end dernier, les inspecteurs internationaux de l'OIAC, avec cette volonté de chercher des preuves d'une attaque chimique dans la ville de Douma. Mais nous sommes mercredi soir et le travail n'a toujours pas commencé. Pierrick Bonneau, la raison, c'est qu'une équipe de l'ONU a été prise pour cible dans la région.
Cette équipe de sécurité des Nations Unies était en fait chargée de donner son feu vert au déploiement des enquêteurs de l'OIAC dans la Ghouta orientale. Mais leur mission de reconnaissance sur deux sites de la ville de Douma a tourné court. Sur le premier site, l'équipe de l'ONU a été accueillie par une foule de manifestants qui l'a obligée à faire demi-tour. Sur le second, les agents des Nations Unies ont essuyé des tirs d'armes de petit calibre et même une explosion. Ils étaient pourtant escortés par la police militaire russe déployée dans la région. Voilà ce que raconte l'ambassadeur britannique aux Pays-Bas. Pas de blessés, mais le chef de l'OIAC dit ce soir ignorer quand les experts pourront commencer leur travail d'enquête. Il ajoute que leur déploiement est conditionné à un accès sans entrave et le temps presse. 10 jours après l'attaque qui a déclenché la riposte militaire occidentale, les éventuelles preuves pourraient déjà avoir disparu.
Pierrick Bonneau et par sécurité, ces inspecteurs sont donc retournés à Damas. Il y aura des élections législatives et présidentielles anticipées en Turquie dans 2 mois, le 24 juin prochain. Annonce aujourd'hui de Recep Tayyip Erdogan qui compte bien être reconduit dans ses fonctions avec des pouvoirs renforcés, c'est tout l'objet de ce vote. Il n'aura par exemple plus de Premier ministre, le président turc qui a par ailleurs prolongé pour la 7e fois l'état d'urgence. Peu d'avancées à l'issue d'une réunion à Nantes entre la préfecture de Loire-Atlantique et une délégation d'opposants à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ceux-ci estiment qu'aucune ligne n'a bougé, réunion présidée par Nicolas Hulot qui a demandé aux zadistes de ne pas entrer dans une spirale de violence. France. Côté université, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a assuré devant l'Assemblée nationale qu'il allait rétablir l'état de droit. Une quinzaine de campus restent perturbés. Il y en aura un de plus demain, la faculté Saint-Charles de Marseille, tandis que les étudiants de Strasbourg ont voté la reprise des cours. Et la SNCF, la grève continue demain contre la réforme de l'entreprise avec les mêmes perturbations qu'aujourd'hui. Maintien d'un TGV sur 3 et de 2 TER et 2 Transiliens sur 5. Dans une demi-heure maintenant, 21h05, ce sera le coup d'envoi de la seconde demi-finale de Coupe de France de football. Le Stade Malherbe de Caen contre le PSG pour une place face aux Herbiers en finale au Stade de France. Et puis un cycliste français vainqueur de la Flèche Wallonne, Julien Alaphilippe de l'équipe Quick Step. À 20h33, on retrouve tout de suite Jean-Mathieu Pernin. C'est la suite des informés sur France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à, oui, on plaisante, jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils se dodelinent hein, sur le dance floor de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Éric Métou de L'Express, la communicante Aurélie Motarivet, Christophe Gascard de la rédaction de France Télévisions et Christophe Pierrel, ex-chef de cabinet de François Hollande. Alors, en ouvrant son livre de la politique pour les nuls, Nicolas Hulot s'est attardé aujourd'hui sur le chapitre Guet-apens. Et oui, ou comment un ministre va chercher des solutions, alors que son Premier ministre a déjà une idée de la suite. Et oui, après avoir accepté de rencontrer la préfète des Pays de Loire, une délégation de zadistes a vu le ministre de la Transition écologique s'inviter aux négociations et même les présider cet après-midi. Le gouvernement joue la carte écolo-responsable avec Hulot, adversaire historique de la construction de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport, pardon, de Notre-Dame-des-Landes. Au moment où la réunion débutait à Nantes, eh bien, Édouard Philippe martelait à l'Assemblée nationale, je cite, « Ceux qui ne veulent pas rentrer dans le droit ont peu de temps pour le faire ». Voilà. Bon. Donc, une bonne ambiance. Et pour le ministre, il faut que le calme soit, Nicolas Hulot.
Ne rentrons pas dans une spirale de posture, de confrontation et de violence. Ne confondons pas écologie et anarchie. Et sachons un moment passer à une autre étape. Il faut aussi savoir reconnaître les gestes qui ont été faits. Le gouvernement est en droit d'attendre un geste. Et plus qu'un geste, un retour à l'ordre.
Voilà, Nicolas Hulot, donc, je ne sais pas s'il a passé une bonne journée, Nicolas Hulot, il n'avait pas l'air en tout cas. Éric Métou, en envoyant Nicolas Hulot, le gouvernement a voulu jouer une carte justement en apaisant pour apaiser la situation avec lui.
C'était plutôt une bonne idée, mais pour lui, c'est une tragédie.
Oui, j'ai l'impression que c'est terrible. Là, quand on les images...
Non, mais c'est une énorme victoire pour lui, Notre-Dame-des-Landes. Bien sûr. Il a enfin mis fin à une histoire qui dure depuis des dizaines d'années. Donc, ça devrait être une énorme victoire. Donc, il est rentré. Enfin, moi, je vois très bien la scène. Il rentre chez Édouard Philippe. Écoute, tu me débarrasses de Notre-Dame-des-Landes et moi, je te débarrasse des zadistes. Ouais. Et on est dans ce bourbier, là, aujourd'hui. Et il a raison sur le fond. C'est-à-dire, cette histoire, c'est 250 personnes. Alors, légitime, pas légitime, c'est pas le sujet. Ou un millier de personnes avec le triple de CRS autour. Et il est enferré là-dedans. Il ne peut pas revendiquer la victoire de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est toujours pas fini. Enfin, je veux dire, c'est impossible à vivre pour lui.
Oui, c'est impossible à vivre. Non, ça fait pas. C'est ce qui est marrant, c'est que ça fait pas quelques heures qu'il passe de mauvaise. Lui, ça non. Fait bientôt un an qu'il va vivre dans la difficulté. C'est difficile. Mais la méthode quand même sur Notre-Dame-des-Landes, c'est un peu la même qu'avec la SNCF, que la même avec la loi travail, etc. D'abord, pareil, on met un grand coup de dent et on dit voilà, ça sera comme ça, et après on négocie. C'est un peu comme sur la SNCF où on dit voilà comment ça sera, on va passer par ordonnance, et après on dit mais je comprends pas, les cheminots ils veulent pas négocier.
L'action menée par le gouvernement, est-ce qu'elle est négociée? Elle était attendue, on se souvient de Manuel Valls et même de l'époque reculant.
Sauf qu'avec Notre-Dame-des-Landes, moi je suis totalement pour le fait que ça soit évacué, tout simplement parce que les mecs ils ont gagné. Bon, qu'on soit pour ou qu'on soit contre l'aéroport, la question elle est traitée. Maintenant c'est fini, il faut passer à autre chose, les mecs, il faut qu'ils s'en aillent. On est clair là-dessus et il faut
pas
tergiverser.
C'est la première fois que la question est traitée, si je peux
permettre. Mais sauf qu'effectivement c'est un peu compliqué d'envoyer les CRS et juste derrière de dire maintenant on veut négocier les terres agricoles, les machins, tout ça. C'est, à un moment il faut peut-être remettre les choses dans le bon ordre sur tous les dossiers. En ne légitimant absolument pas la situation, je pense que qu'on soit pour ou contre l'aéroport, maintenant il faut que les zadistes dégagent le site.
Christophe Gascard, quand on emploie le terme de bourbier, est-ce que c'est vraiment un bourbier aujourd'hui?
Moi je pense surtout que le gouvernement et l'Élysée ne pensaient pas du tout être un jour dans ce bourbier-là. Je me souviens le jour où on a annoncé finalement que l'aéroport ne serait pas construit. C'était d'ailleurs fait assez discrètement. Et un jour, boum, voilà, on l'a appris. C'était une une victoire à la fois pour les écologistes, effectivement, ceux qui avaient défendu qu'il n'y ait pas d'aéroport. Il y avait, il faut le rappeler quand même, un référendum local où effectivement la majorité avait quand même dit, là encore, l'exercice de la démocratie, mais c'était quand même à majorité, ils avaient voulu cet aéroport. Oui. Emmanuel Macron s'était, pendant la campagne, si je ne me trompe pas, positionné plutôt pour un aéroport. Mmh. Au final, il n'y a pas d'aéroport, donc ils se disent, bon, tout le monde va être content, etc. Et tout, et à la limite, c'est plutôt ceux qui voulaient. Et puis là, c'est... Je pense pas qu'ils s'y attendaient, parce que finalement, 250 personnes seulement, c'est aussi là. Toujours, la vraie difficulté, c'est cette majorité ou cette minorité bruyante face à une majorité silencieuse.
D'où Aurélie m'est arrivée.
Je pense que la vraie question, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, c'est est-ce que l'ordre républicain et l'état de droit vont être impuissantés ? Vous avez noté.
Impuissantés, tout à fait.
Oui. Néologisme. Oui, oui, comme la communauté internationale. Et on revient au même sujet. En fait, c'est un test pour son autorité, effectivement, comme vous l'avez dit. Et je pense qu'il est obligé de réussir dans cette séquence, a fortiori parce que c'est le premier à s'y attaquer, quand même, il faut le reconnaître.
Mais est-ce que, finalement, voilà, je reprends ma question, mais le terme de bourbier, on sent bien qu'il y a un moment, en effet, pourquoi négocier maintenant, alors qu'on a commencé à évacuer, puis maintenant on négocie. Enfin, c'est un peu difficile, oui, là, on sort Nicolas Hulot.
En même temps, c'est compliqué, parce qu'il faut trouver l'équilibre. Que dirait-on s'il y avait un dérapage ? Non, mais que dirait-on s'il y avait aussi un dérapage, s'il y avait des blessés ? Enfin voilà, faut aussi, c'est pas une séquence qui est très simple gérer. Et je pense, si je suis plus cynique, qu'il est, en termes de communication, ensuite, dans une forme de mise en scène du discrédit des propres zadistes. Je pense qu'en montrant qu'il n'y a plus de raison, finalement, de s'opposer, de rester, puisque le projet d'aéroport ne se fait pas, c'est une forme aussi de mise en scène du discrédit.
Christophe Pirel, lundi, ça sera donc l'ultime ultimatum, hein, on va dire ça, pour les projets, d'ailleurs, notamment agricoles. Est-ce que les affrontements, finalement, ça peut continuer à devenir un symbole Notre-Dame-des-Landes pour, en effet, certaines personnes, et dire, c'est à nous, voilà, et on va continuer.
Et là, c'est bien parti, parce que le problème, c'est que les zadistes, il y a ceux qui sont sur place, il y a ceux qui viennent de l'extérieur, il y a ceux qui, du coup, en font une cause nationale, et on voit qu'il y a des gens qui commencent à converger, si vous voulez, un petit peu de partout. C'est ça qui est quand même plus inquiétant. Notre-Dame-des-Landes, il ne faut pas oublier que dans l'histoire, les zadistes ne sont pas que des gens du coin, ce sont des gens qui viennent de loin, voire de l'étranger. Il y a quand même des zones maintenant, notamment en Italie, qui viennent occuper ces espaces-là. Alors, ça a un côté, ça a quelque chose de très inquiétant, parce que on a du mal aujourd'hui à faire sortir des grands projets sur le territoire français. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez toujours ces zones, justement, ces ZAD qui sont occupées. Donc, c'est quand même problématique sur les grands investissements qu'on veut lancer sur le territoire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que là, pour le coup, je pense qu'à la fin, c'est effectivement les ZADistes qui vont se retrouver décrédibilisés dans leur combat. C'est dommage, parce que clairement, ils avaient gagné. Non, mais ils avaient gagné. C'est-à-dire que c'est là que c'est complètement fou. C'est que les mecs, ils avaient gagné. Ils continuent à démonter le truc.
Là, c'est dommage. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont décrédibilisés. C'est-à-dire que je pense quand même, enfin, on pourrait faire un sondage, mais une immense majorité de l'opinion publique est contre eux. Ils ont gagné.
Ils ont bien battu, mais ils ont gagné.
Et ils continuent à pas vouloir. Et en fait, c'est quoi leur objectif derrière? Et donc, tout le monde est en train de se poser cette question-là. C'est quoi l'objectif des zadistes? C'est pas d'aller planter trois carottes bio. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des
Certains.
Je pense qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre zadistes et écologistes.
Mais c'est pas les mêmes milieux. L'avenir de l'agriculture française est pas Notre-Dame-des-Landes.
Allez, dans un instant, on va parler d'un autre endroit aussi tendu. C'est dans certaines facultés en France, l'info à 20h40. Stéphane Milhom.
Deuxième jour de grève à Air France et même le 9e au total depuis le début du conflit. 30% des vols étaient annulés aujourd'hui. Un gâchis pour le directeur général de la compagnie aérienne. Dans le quotidien La Tribune, Franck Terner invite l'intersyndicale à consulter les salariés après les propositions qui ont été faites par la direction concernant la question des salaires. Qui sera le successeur de Raúl Castro à Cuba? Le suspense semble assez mince. Son dauphin Miguel Díaz-Canel est le seul candidat. L'Assemblée de l'île doit voter demain après 6 décennies de pouvoir exclusif des frères Castro. La suite des révélations du projet Daphné, 18 médias internationaux dont la cellule investigation de France Info poursuivent les enquêtes de la journaliste maltaise Daphné Caruana Galizia, assassinée il y a 6 mois. Une nouvelle enquête ce soir montre comment le laxisme des autorités de Malte a permis à des familles liées à la dictature d'Azerbaïdjan de mettre la main sur 3 sociétés françaises. Julien Alaphilippe remporte la Flèche Wallonne, c'est la première victoire du cycliste de 25 ans dans une classique de cet ordre, 21 ans après la victoire de Laurent Jalabert. Et puis 5 femmes et 4 hommes composeront le jury du Festival de Cannes le mois prochain. Parmi ces personnes, les actrices américaines Kristen Stewart et française Léa Seydoux, également les réalisateurs canadiens Denis Villeneuve et le français Robert Guédiguian. Le Festival de Cannes, c'est à suivre du 8 au 19 mai.
France Info.
20h, 21h,
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, et pendant ce temps-là, dans les facultés, c'est toujours tendu. Hein, le mouvement contre la réforme à l'accès à l'université se poursuit. Alors ce soir, on a appris, donc c'était la fac de Marseille. 4 autres facs sont bloquées sur 70. Il y a Nanterre, Montpellier, Sciences Po, CMI et à Tolbiac à Paris. Alors le président appelle de nouveau les forces de l'ordre. Bon, alors en même temps, ce président a fait beaucoup pour renforcer le mouvement étudiant puisqu'il a déclaré que dans l'université régnait, je cite, « la violence, le sexe et la drogue ». Donc une sorte de spring break en plein Paris en fait. Une situation qui dure, qui commence à énerver le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui dit il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Aurélie Motarivé, on voit peu de blocages, mais des initiatives, par exemple comme aujourd'hui à Avignon, où des enseignants démissionnent face à Parcoursup, à Rouen, c'est le campus qui est fermé. Bref, on sent quelque chose qui dure quand même, tout de même aujourd'hui.
Il y a quelque chose qui dure, mais qui n'imprime pas. Je suis désolée, je reviens à mon obsession de communication. mais en fait, on a la sensation, effectivement, qu'une grève en chasse une autre, qu'un événement en chasse un autre. Et finalement, enfin, ce qui est terrible dans la séquence de communication avec ce rythme imprimé qui est voulu et qui est scénarisé, c'est qu'au fond, on ne retient pas tout ça. Enfin, tout ça. En fait, on a l'impression qu'il y a une espèce de droit à l'oubli systématique d'un jour à l'autre.
D'un jour à l'autre. Christophe Pirel, pour vous, justement, ces mouvements étudiants, alors on les voit divers. C'est la même chose que tout à l'heure sur la coagulation. On voit qu'il y a différentes choses. Il y a Parcoursup, il y a d'autres qui vont manifester. Alors en général, c'est pour la réforme d'accès à l'université, mais c'est un peu complexe à suivre aussi, également.
Ouais, c'est complexe, c'est surtout la même chose que tout à l'heure, on ne parle pas du problème de fond. C'est-à-dire que Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on va? Comment ça sélectionne? Est-ce que ça sélectionne vraiment? Moi, dans la lecture que j'ai, oui, ça sélectionne, parce qu'en fait, si vous classez les étudiants et que vous en sélectionnez que les premiers, ça s'appelle quand même une sélection. À un moment, on peut tourner les choses. Si le choix politique du gouvernement, c'est de sélectionner, il faudrait qu'il l'assume, il ne veut pas le dire, donc il communique là-dessus. Moi, je suis un pur produit de l'université, alors j'aime pas trop parler de moi, mais là, c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai eu ma chance, parce que j'ai eu 10-0-0 au bac, d'être pris à l'université sans sélection. Ce qui m'a permis quand même derrière de trouver ma voie et finalement de finir chef de cabinet du président de la République. Excusez-moi, je suis assez fier de mon parcours de l'école de la République, de l'université de la République. On m'a pas interdit de rentrer dans une université.
Pardon du fond, alors combien de personnes restent sur le bord du chemin? Il y a 70% des...
J'entends les chèques à la première année.
Je trouve que la gauche, ou les mouvements étudiants, les syndicats étudiants, que ces syndicats défendent, alors on peut dire des choses sur Parcoursup qui est loin d'être le système le plus parfait, mais que ces syndicats et la gauche, dans son ensemble, défendent le système actuel. C'est-à-dire, grosso modo, où on envoie 70% des gamins à l'abattoir, à l'université, dont on sait pertinemment que dès la première année, ils vont abandonner, qu'ils ne sauront pas quoi faire. Moi, je le sais, je suis un produit de l'université aussi, et ma fille, elle y est à la fac. Donc, je vois comment ça fonctionne. Des amphis qui sont bondés,
des profs qui ne sont pas motivés. Il est où le problème? Ça fait 30 ans qu'on laisse pourrir le système, qu'on ne crée pas des places dans l'université.
Parcoursup est discutable, on peut en discuter, mais au moins ça change. Il faut arrêter de... La sélection à l'université, c'est un tabou. On en est où maintenant?
Le problème de fond, c'est d'arriver à ce système. Si aujourd'hui on est dans un tel pourrissement de la situation de l'université qu'on est obligé de faire une sélection derrière, et d'ailleurs il faut assumer que le gouvernement assume le mot, s'ils sont obligés de mettre en place une sélection, c'est parce que pendant 30 ans on n'a pas créé les places nécessaires, qu'on n'a pas donné les dispositions nécessaires, qu'on n'a pas adapté le lycée à l'université, c'est-à-dire qu'on commence à orienter, et que tout ça en fait n'a pas été pensé globalement, et on en arrive à sélectionner. Alors, sauf que c'est pas le problème de fond. On sélectionne parce que c'est une solution facile, temporaire et qui coûte pas cher. Hélas. Le problème, c'est de réformer en fait tout le système du collège jusqu'à l'université, et ça, personne veut le faire.
Christophe Gascard, on le voit, certains examens
ont été reportés. Hein, faut surtout pas dire annulés, mais reportés, bien sûr. Est-ce que aussi, on a vu quand même des choses faire intervenir des CRS dans les universités. Est-ce que ça, c'est plus un problème maintenant?
On est cette année en plus dans une année charnière, puisqu'on est dans les 50 ans de mai 68.
Oui, donc, c'est bizarre.
En même temps, on voit que c'est pas du tout les mêmes revendications. Ce que je vous disais tout à l'heure, là encore une fois, Emmanuel Macron, il a été porté au pouvoir pour faire ses réformes. Il est arrivé. On a vu qu'il y avait un problème à l'université, quoi qu'il en soit, peut-être, qui existait déjà sous François Hollande, qui était la sélection. C'était les ordinateurs. Alors là, on a dit, effectivement, il va falloir, ça va être différent. Parcoursup, ça va être effectivement des personnes qui vont choisir, sélectionner. Pour moi, le vrai problème, et on l'entendait tout à l'heure sur votre antenne France Info Radio, il y avait cette personne d'Avignon qui avait démissionné, qui expliquait, nous, ce qui nous manque, finalement, on trouve ça plutôt pas mal, c'est les moyens. On n'a que 30 secondes pour choisir quelqu'un. Donc, Pour moi, c'est une bonne réforme. Il faut mettre les moyens qui vont avec.
Alors, une chose aussi, Aurélien Montarrivé, il y a aussi beaucoup de professeurs. Et c'est le président de la Sorbonne qui avait alerté là-dessus en disant « Attention, parce que dans Parcoursup, on demande un CV, une lettre de motivation. Et selon le milieu d'où on vient, on n'écrit pas de la même manière. On n'a peut-être pas la même appréciation du français. Donc, est-ce qu'on ne va pas être jugé également là-dessus ? Voilà, est-ce que cette sélection aussi, elle ne va pas s'opérer par ce genre de démarche ?
Ce qui est terrible, c'est que les inégalités, elles se créent très tôt, en fait, si pour reprendre vos propos. Moi, par exemple, j'enseigne à Sciences Po. Oui. Je suis maître de conférence à Sciences Po. Je pense que c'est un peu une exception puisque c'est une école qui s'est beaucoup réinventée, qui est très connectée. Et je pense qu'un des vrais sujets, c'est ça, sur l'entreprise et qui est très professionnalisante. Donc, qui
mais connectée, vous êtes bloqué ce soir
sur l'entreprise et inversement.
Vous êtes bloqué ce soir. Donc, à Sciences Po, ils sont bloqués. Donc, ils ont entamé aussi.
Mais je pense que c'est un peu une exception parce que vous le citiez. Donc, je pense que c'est pas très représentatif du système d'éducation. Mais je pense qu'il faut tout revoir. Il faut revoir le lien.
Il y a un peu de sélection à Sciences Po, quand même.
Légèrement. et ne serait-ce qu'avoir l'idée de faire Sciences Po, d'ailleurs. Alors, la réforme ZEP a beaucoup œuvré dans ce domaine-là. Et on doit ça à Richard Descoings. Donc, l'école a su se réinventer. Mais c'est pas le cas de l'ensemble aujourd'hui de l'université, c'est évident. Il y a un énorme travail à faire.
C'est facile. Je pense que les étudiants de Sciences Po ne se révolteront pas contre une réforme de Sciences Po. Le problème de l'université, c'est que c'est un système bloqué. C'est un système bloqué par les étudiants, par les syndicats étudiants, maintenant par les syndicats de profs aussi, puisqu'ils commencent à s'y mettre.
Par certains étudiants. Moi, j'entends beaucoup. J'ai autour de moi des étudiants qui disent, mais nous, on en a marre. Encore une fois, on est dans une minorité qui fait beaucoup de bruit. Nous, on a envie d'aller passer nos examens.
En tout cas, la minorité qui fait voter,
c'est toujours pareil, prise en otage, c'est la même chose.
C'est des AG où il y a 4000 personnes qui, évidemment, vont voter pour le blocage. Je veux dire, sur une population qui, en fait, qui est 10 fois plus et qui ne vote pas, qui ne peut pas s'exprimer autrement. Il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut aller voir sur Facebook.
Non, mais moi, j'en ai vécu des assemblées générales. Bah oui,
moi aussi, j'en ai vécu. Justement, je sais comment ça se déroule, une assemblée générale.
Il y a eu un vote qui a été organisé.
Il y a quand même un mal qui est exprimé. On peut pas nier non plus ce qui se passe. On peut pas nier qu'il y a un problème. On peut pas nier que l'université va mal. Et que c'est pas parce que tu vas faire un peu de sélection que tout d'un coup l'université va aller mieux. Ça, c'est une utopie complète. Ça coûte pas cher, ce que je dis. C'est facile de faire ça. Alors, il y avait une urgence avec APB. Il y avait une urgence.
Bien sûr.
Mais l'urgence, elle est surtout de repenser l'intégralité de ce système. Il marche pas.
J'ai pas vu les étudiants se mettre en grève pour bloquer les universités pour le système APB qui était quand même une usine à gaz autrement plus mal foutu que le système Parcoursup. Parce que ça a été mis en place par Hollande, c'était un gouvernement de gauche, ça s'est passé
un peu pendant l'été et que évidemment les étudiants ont un peu découvert le logiciel pendant l'été, ils ont compris que c'était un problème et que c'était difficile du coup de bloquer les universités pendant l'été.
En tout cas,
mais APB c'était pas terrible.
On aura l'occasion d'y revenir dans les informés de France Info puisque demain il y a une AG à la fac de Tolbiac, demain à 10h. Donc on va avoir l'évolution de la situation. L'info à 20h50, Stéphane Milhom.
Qui va rejoindre les Herbiers en finale de la Coupe de France de football ? Réponse d'ici quelques minutes, 21h05, depuis le stade de Malherbe. Caen accueille le PSG. Hier soir, les Herbiers ont battu Chambly 2-0. L'état a donné, il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance dans l'autre sens. La déclaration de Nicolas Hulot ce soir depuis Nantes. Il constate l'échec des discussions avec les derniers zadistes et opposants à l'ancien projet Notre-Dame-des-Landes. Le ministre de la Transition écologique appelle les opposants à ne pas rentrer dans une spirale de violence. Après 3 semaines de perturbations, les étudiants de Strasbourg votent contre les blocages. Non à 71% après cette consultation sur Internet orchestrée par la présidence de l'université. À Montpellier, la justice ordonne aux occupants de quitter les locaux de la fac Paul Valéry. Une équipe de sécurité de l'ONU a essuyé des tirs à Douma en Syrie. Elle effectuait une mission de reconnaissance pour préparer le déploiement des experts, ceux qui seront chargés d'enquêter sur une attaque chimique présumée. Le travail de ces experts n'a toujours pas pu commencer. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan provoque des élections anticipées pour le mois de juin, soit 1 an et demi avant la fin de la présidentielle et des législatives. Il briguera un nouveau mandat au pouvoir considérablement renforcé. Il est à la tête de la Turquie depuis maintenant 15 ans.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. On va terminer cette émission en prenant des nouvelles de Laurent Wauquiez, eh oui, eh bien bon bah écoutez, il a l'air d'aller. En tout cas, il a un petit pupitre et puis il fait, bah voilà, il parle en ce moment, Laurent Wauquiez, puisque il a fait des contre-propositions par rapport à la loi asile et immigration. Vous savez, cette loi qui est discutée actuellement à l'Assemblée, qui fait polémique même dans les rangs de La République en Marche. Aujourd'hui, ce sont des proches d'Emmanuel Macron qui ont publié une tribune dans Le Monde. C'est Daniel Cohn-Bendit et Romain Goupil qui demandent au président d'être plus humain sur ce sujet. Et donc après le Front National, c'était au tour des Républicains et notamment, eh bien Laurent Wauquiez a notamment parlé, conditionné, pardon, plus fermement le droit du sol et même une autre proposition qu'il avait déjà faite lors de la primaire. Eh bien, il l'a réitéré. On écoute le président des Républicains, Laurent Wauquiez.
Je veux qu'il puisse y avoir un référendum pour que ce soit les Français qui décident. Ce n'est pas aux passeurs, ce n'est pas aux juges de décider qui entre en France. C'est aux Français de le décider. Les Républicains veulent une seule chose, sortir la France de l'immigration de masse. Ni plus, ni moins, sortir la France de l'immigration de masse.
Voilà, Laurent Wauquiez, donc sortir la France de l'immigration de masse. Aurélie Motta arrivait, donc contre-proposition hein, au projet asile et immigration. C'est un discours voilà, assez offensif, hein, comme lui a toujours voulu sur l'immigration. Ça plaît aux militants des Républicains, mais est-ce que finalement ça plaît aux Français ?
Je crois surtout qu'en fait, là, on est vraiment sur pas sur un acte de communication, mais sur un sujet politique extrêmement clivant. Ça a toujours été le cas. Très polarisant. D'ailleurs, on voit qu'Emmanuel Macron n'est pas complètement à l'aise avec le sujet puisqu'il se réfugie derrière les propos de Rocard sur la misère du monde. Ouais. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit prendre sa part.
Donc
on voit qu'il n'est pas à l'aise. Il en parle d'ailleurs assez peu. Il est assez peu en front sur ce sujet parce qu'en fait, il est là, c'est son autorité de chef de parti qui est mise en question. Et effectivement, pour l'opposition, c'est un peu un sujet rêvé en termes de communication, une opportunité de communication puisque c'est un sujet qui peut être caricaturé et finalement qui s'adapte pas tellement au en même temps en termes de communication.
Christophe Pirel, quand on a entendu Laurent Wauquiez qui veut donc un référendum sur un quota donc d'immigrés en France, il veut également revenir sur le droit du sol. Et on se souvient lors de la primaire des Républicains pour la présidentielle, tous les candidats souhaitaient l'amender. Il en avait déjà parlé au moment de Mayotte, en allant à Mayotte. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui revient régulièrement parce qu'aussi ça plaît, cette proposition ?
Je sais pas, parce qu'en fait, Laurent Wauquiez est quand même dans la politique du plus. Je trouve que déjà, la loi, en l'occurrence, elle est assez forte. Parce que même si, à un moment, il y a ce « et en même temps » habituel d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire plus d'humanité, en fait, quand vous regardez dans le texte, c'est beaucoup plus de fermeté. C'est pas du tout ce qu'il dit. Et Laurent Wauquiez, lui, il essaie d'aller encore plus loin. Alors, parce que c'est dans sa stratégie d'aller ratisser dans les voies du FN, c'est dans sa stratégie d'aller chercher un électorat qu'il croit pouvoir reconquérir. Je pense qu'en fait, il se trompe complètement. Parce que le discours, pour le coup, de Gérard Collomb, du gouvernement, mon avis, est assez ferme, et que les positions du Front National, c'est celle du Front National, il n'arrivera jamais à les récupérer, les voix. Donc je pense que sa stratégie, elle est mauvaise, mais sur le fond de la loi, je crois que Emmanuel Macron, effectivement, va avoir du mal à l'assumer, parce que ça peut faire exploser une partie de sa majorité. On en parlait avec Daniel Cohn-Bendit, mais il y a des députés quand même issus du Parti Socialiste, qui à un moment, je pense que c'est une ligne rouge.
Elle est portée par un ancien membre du PS, cette loi.
Oui, Gérard Collomb. D'accord. Oui, Gérard Collomb, on n'a pas été le plus à gauche du PS.
Mais bien sûr,
longtemps.
Mais n'empêche.
On pourra en discuter.
Je crois que c'est vrai qu'il
Devait payer son adhésion.
Peut-être.
Mais pas forcément adhérer aux idées. C'est toute la différence. Mais vraiment, sur cette question-là, je crois que c'est dangereux pour Macron. Parce qu'il y a des députés qui vont sans doute se retrouver à voter contre cette loi. Et ça va être peut-être la première fois qu'il va y avoir des frondeurs dans son Parlement.
Vraiment compliqué, Éric Métou, à votre avis, pour cette majorité. On a vu Richard Ferrand avec des mots très durs pour ceux qui voteraient contre. C'est un moment difficile. Ça serait vendredi. Ça va être vendredi, le vote.
Je pense qu'il y a quelques voix qui se font entendre et qui vont se coucher comme dans les discussions précédentes. Après, oui, c'est compliqué. Clairement, Collomb et Macron et Philippe ont déplacé le centre de gravité. C'est pour ça que Wauquiez, il est obligé aujourd'hui de surenchérir de manière... un peu honteuse quand même, faut bien le dire. Là, il va carrément marcher sur les terres du Front National et alors sans aucune vergogne. Cela dit, c'est une stratégie qu'il a commencé il y a un petit moment. Il y a une enquête dans le numéro de l'Express de cette semaine sur une convergence de plus en plus grande entre la droite et l'extrême droite avec les passerelles. Tout ça passant par Marion Maréchal Le Pen. Voilà, il est sur ce terrain-là. Après, le fait que le centre de gravité ait bougé vers la droite sur l'immigration, ça fait très longtemps. Enfin, je veux dire, celui qui a refusé les quotas européens de de réfugiés en France, c'est François Hollande.
Toujours. Voilà. Non, mais je vous invite à regarder quand même l'hémicycle le jour du vote. Regardez l'hémicycle. Parce que même s'il y en a certains qui voteront pas contre, il y en a certains qui ne viendront pas de circonscription pour aller voter ça.
Allez, en tout cas, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, Aurélie Motarivé, d'être passé ce soir. Merci, Christophe Pierrel. Merci, Christophe Gascard également. La une de l'Express, Cyril Pétou.
Je viens de la vendre. Donc, Maréchal Le Pen porte.
Il fait sa promo tout seul.
Voilà, qui fait la passerelle en sous-main pour l'instant entre la droite et l'extrême droite.
Voilà, et notamment un dîner dont on a beaucoup parlé aujourd'hui avec Buisson, pas avec Patrick Buisson. Voilà, en effet, Marion, Maréchal Le Pen.